Dominique Delande, qui va nous parler de la dynamique hors d'équilibre des gaz quantiques désordonnés. Donc, Dominique, c'est un spécialiste de ces gaz, de ces atomes froids, et en particulier sur les questions de localisation. Puis il a aussi beaucoup travaillé sur le chaos quantique, donc je vous encourage beaucoup à écouter ce qu'il va nous dire.
Merci Bernard, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur de venir parler dans ce cadre. Je présente d'abord un petit peu les gens avec qui ce travail a été fait, donc essentiellement au laboratoire Kessler-Bruxelles, mon collègue Nicolas Chéroret, et puis des Thésards, Tony Pratt qui a maintenant fini, Thibaut Scocard qui est ici dans la salle, et aussi Yacoub Yanarek qui est partagé en co-tutelle avec l'Université de Cracovie. Alors, pour un tout petit peu de contexte, oui, je vais parler en français, les transparents sont tous en anglais, sauf le premier, ici, qui est en français, pour une raison qui va apparaître. Je reprends le contexte un petit peu pour me mettre dans un petit peu le cadre qu'a défini Bernard pendant son cours. Et donc, le problème qui m'intéresse, moi, c'est un système quantique désordonné et dans lequel on va regarder les propriétés de transport. Donc, c'est un cas un peu... Enfin, c'est un cadre un peu plus restreint par rapport au cadre général des problèmes de localisation. Et on va prendre, comme l'a dit Bernard, un système isolé, parce que c'est plus simple, et on va être loin de l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire qu'on va étudier l'évolution. Donc ça, évidemment, ça offre une richesse et ça ouvre plein de perspectives par rapport au système proche de l'équilibre, à l'équilibre ou proche de l'équilibre thermodynamique, comme on peut avoir, par exemple, avec un gaz d'électrons, où souvent on est proche d'un équilibre thermodynamique quand on mesure la conductivité d'un échantillon, des choses comme ça. Alors si je reprends, justement, là, je reprends exactement ce qu'avait écrit Bernard il y a 15 jours sur la localisation d'Anderson, qui va être le sujet qui nous intéresse. Alors il avait écrit dans le cadre des électrons, donc des fermions, les problèmes des interactions entre les électrons, le problème du réseau cristallin et de l'agitation thermique, les impuretés et la température. C'était les points listés. Alors, en fait, le cadre dans lequel je vais discuter, moi, est essentiellement le même, sauf qu'il est un tout petit peu adapté pour les problèmes d'atomes. Alors, au lieu d'avoir des fermions, on va avoir des bosons. Mais bon, ça, en fait, ça ne change pas énormément de choses dans la mesure où une bonne partie de ce que je vais dire est de la physique à un corps. Donc là, on s'en fiche. Les interactions ne vont pas être entre électrons, mais entre atomes. Bon. Alors, quand on prend des atomes dans un désordre qui est fait à la main, plutôt, enfin, depuis l'extérieur, plutôt qu'un désordre intrinsèque qui est lié au cristal, aux imperfections du cristal, l'avantage, c'est que c'est contrôlé depuis l'extérieur. Et si on fait... on peut se débrouiller, si on travaille bien, pour ne pas avoir de problème d'agitation thermique lié au phonon dans le réseau, comme on peut avoir avec les électrons. On n'est pas du tout à l'équilibre thermodynamique, donc la notion de température n'a pas de sens. C'est bien le système isolé hors d'équilibre. Donc c'est dans ce cadre que je vais discuter la physique qu'on peut faire avec des atomes froids dans ce cadre-là. Le point le plus important, c'est que tout ce que je vais montrer, puisqu'il y a des calculs faisables, c'est dans un régime de désordre faible. Donc c'est le contraire de ce qu'on vient de voir, où il y avait du désordre très fort, où on montrait l'existence de localisation. Ici, on sera en désordre essentiellement des ordres faibles, et en basse dimension, puisqu'on a vu que en dimension 1, par exemple, il suffit d'un tout petit peu de désordre pour localiser les particules. Alors, une description un petit peu. Donc, je vais rappeler d'abord des choses très élémentaires sur la location d'Anderson avec les atomes froids. Je vais parler d'un effet emblématique du transport qui s'appelle l'effet de boomerang quantique, et je vais vous expliquer ça assez en détail, comment ça marche, parce que c'est assez instructif sur le type de méthode qu'on peut utiliser pour aborder ces problèmes. Et puis après, je regarderai les problèmes d'interaction entre atomes. Donc, comme c'est des bosons, on a des approximations de style champ moyen, donc ce qu'on appelle l'équation de Gross-Pitayevsky. Et puis les problèmes dont Bernard vient juste de parler, c'est-à-dire la relaxation vers l'équilibre thermique, et puis une dynamique vraiment au-delà du champ moyen, qui est donc une vraie dynamique many-body, alors qui ne va pas être dans le cadre de many-body localization tel que Bernard vient de le décrire, ce sera de la many-body non localisée, mais ce n'est pas grave, ça, c'est quand même aussi instructif. Alors, un rappel très rapide sur la location d'Anderson, donc un potentiel désordonné, ici représenté en rouge en 1D, ou il y a un paysage là en gris en 2D. Je parlerai de problèmes essentiellement continus, même si tout ce que je dis en fait, peut se transposer sans trop de problèmes à des problèmes sur réseau. Un potentiel désordonné. Et puis, en 1D, la propriété toujours un peu surprenante, c'est que si on met des atomes à des énergies nettement au-dessus des fluctuations du potentiel, quand même, il va être localisé. il a beau l'onde en mécanique quantique. Alors qu'en mécanique classique, ça va être complètement balistique, le mouvement. En mécanique quantique, à chaque fois qu'on passe près d'une petite bosse de potentiel, ben, il y a une partie de l'onde qui est rétro-réfléchie, qui repart dans l'autre direction, puis à la fin, tout ça s'additionne et finit par localiser le problème. Donc c'est la localisation d'Anderson. Et donc c'est dû typiquement à des problèmes d'interférence, c'est-à-dire d'interférence entre le fait que la particule, par exemple, quand on est à 1D, ben, elle part ici, quand elle se propage dans la direction droite, elle suit les fluctuations du potentiel, mais si jamais elle est diffusée et repart dans l'autre sens, elle suit exactement le même potentiel. Et de même, si elle a encore une diffusée une deuxième fois, puis repart vers l'avant, elle réexplore toujours, encore et toujours, le même potentiel. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a la localisation, simplement parce que l'espace ouvert pour la dynamique est trop pauvre, parce qu'on explore juste une réalisation de désordre de potentiel statique, et ben, du coup, ce n'est pas assez riche pour autoriser une diffusion où on est strictement localisé. Alors, une expérience bon, bien connue sur la localisation qui illustre parfaitement le premier point que Bernard a cité sur le comment caractériser de la localisation. Bah, caractériser la localisation, on part de quelque chose de localisé. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite il y a une dizaine d'années dans l'équipe d'Alain Aspect et Vincent Josse. On part ici d'une densité atomique très localisée, un point là. On restreint la dynamique 1D avec un laser ici en rose, qui fait que la dynamique est vraiment strictement 1D le long de cette dimension-là. On rajoute un potentiel désordonné, bon, peu importe comment on le fait, c'est pas extrêmement important, c'est essentiellement optique. Et puis à T égale 0, on a cette densité initiale qui n'est pas du tout un état propre du système, on lâche les atomes et on regarde comment ils évoluent. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, après en gros une seconde, la densité atomique elle a pris cette forme-là, donc une forme qui est un petit peu caractéristique d'une exponentielle, donc d'une forme de localisation. Et si on regarde en fonction du temps, à 0,8 secondes, 1 seconde ou 2 secondes, ben, en fait, on a la même figure, c'est-à-dire qu'au début, on était comme ça, on s'est élargi, et puis on s'est arrêté, on s'est gelé au bout d'un moment. Et donc ça, c'est une des caractéristiques. À la limite, T tend vers l'infini, on a une longueur caractéristique qui est donnée ici, on voit que c'est en log, donc on a une décroissance plus ou moins exponentielle, bon, c'est bruité, c'est une vraie expérience, mais on voit que la longueur tend vers quelque chose qui est de l'ordre de 0,5 mm. Et puis, quand on attend 2 secondes, ben, ça ne bouge plus. Donc, c'est vraiment une dynamique gelée. Et c'est une caractérisation de localisation d'Anderson. Dans ce cas-là, le désordre est très faible, c'est-à-dire que les fluctuations du désordre, typiquement l'énergie cinétique des atomes qu'on met là-dedans, est 40 fois plus haute que les fluctuations du potentiel. Et quand même, on est localisé. Alors, il se trouve que c'est un régime de faible désordre, donc on sait calculer la longueur de localisation. C'est donné par une expression là. Alors, c'est faible désordre. VR, c'est l'amplitude du désordre. Donc, vous voyez, la longueur de localisation est proportionnelle à l'inverse du carré du désordre. C'est-à-dire que l'exposant d'Yapounov, qui est l'inverse, est proportionnel au carré du désordre. C'est tout ce qu'on a vu dans les séminaires de Christophe, de Jean-Marc Luc ou dans le cours de Bernard, que c'était en désordre faible proportionnel au carré du. Et les points bleus, c'est l'expérience et la prédiction. Donc cette formule-là, dont peu importe le détail, est donnée par cette courbe rose. Et vous voyez qu'il y a tout à fait un bon accord. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où on sait quantitativement étudier ce phénomène donc de localisation. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est un peu plus théorique, c'est que dans le cas de faible désordre, on a plein de méthodes qui permettent d'aborder ça. Donc on en a vu quelques-unes dans les séminaires, du genre les produits de matrices aléatoires qui permettent de calculer des longueurs de localisation. Il y a des techniques diagrammatiques, c'est aussi là-dessus que je vais me baser aujourd'hui, des problèmes de supersymétrie, de modèles sigma non linéaires, d'équations qu'on appelle DMPK. Enfin, il y a toute une variété de méthodes qui donnent évidemment toutes le même résultat, parce que le résultat est unique. En particulier, par exemple, on peut avoir une expression analytique pour en disant je pars à T égale 0 du point Z avec une certaine énergie et je regarde en fonction du temps, au temps très long, ce qui se passe, quel est le profil que j'obtiens. Bon, ben voilà, il y a une forme analytique comme ça. Vous voyez que c'est essentiellement exponentiellement localisé, puisque vous avez des exponentiels qui traînent ici. Xi, c'est ce qu'on appelle la longueur de localisation. Et puis, vous voyez, en état log, bon, c'est pas tout à fait exponentiel, mais en gros, c'est exponentiel quand même. La formule en rouge, c'est la théorie, et en noir, c'est la simulation numérique. Donc ça marche parfaitement. Un point clé en une dimension et en désordre faible, c'est que la longueur de localisation, c'est presque la même chose que le libre parcours moyen. Donc c'est deux fois l'hyperchord moyen. Alors l'hyperchord moyen, c'est quoi ? Ben, si je suis l'onde qui se propage, typiquement, de temps en temps, je vais être diffusé par le désordre. Donc je vais aller, par exemple, ici vers la droite. Au bout d'un moment, je suis diffusé. Au bout, typiquement, d'un hyperchord moyen, je repars dans l'autre sens. Et puis, au bout d'un hyperchord moyen, je suis rediffusé, je repars encore en sens-là. Alors, si ça ressemble à une marche au hasard, si c'était complètement classique, une marche au hasard comme ça, ça fait un mouvement diffusif, mais là, ce n'est pas vrai, c'est un problème quantique. Donc, il y a les interférences que j'ai dit, c'est-à-dire que quand je repasse plusieurs fois sur le même potentiel, ben, je m'en souviens, la phase de ma fonction d'onde s'en souvient, et donc ça localise le truc. Et en fait, ça va très très vite, puisque la longueur de localisation, c'est deux fois simplement le libre parcours moyen. Donc, dès les temps courts, je suis localisé. Alors ça, c'est très spécifique 1D. Évidemment, c'est tout à fait fou quand on n'est pas en, quand on n'est pas en 1D. Et donc, toute cette dynamique-là, c'est une dynamique qui est bon, une dynamique de temps long, puisque là, c'est à temps infini ce que je représente, mais il y a aussi tout ce qui concerne la dynamique au temps court. Et on va voir que pour les effets que je voulais discuter ici, les temps courts, c'est extrêmement important. Et dans ces variétés de techniques pour aborder, bah, par exemple, les techniques de modèles sigma non linéaires, bah, ce n'est pas bien adapté à faire de la dynamique au temps court. C'est plutôt donc, des méthodes diagrammatiques qui vont bien marcher, et c'est pour ça que je vais les utiliser. Donc maintenant, je viens au... Qu'est-ce que c'est l'effet de boomerang quantique ? Bah, c'est un effet extrêmement simple. Je imagine que je prends un paquet d'ondes, je vais le faire évoluer, mais maintenant, j'envoie... Alors là, je vais prendre un paquet d'ondes classique dans un premier temps, donc j'ai des particules, et puis je les envoie toutes vers la droite, avec une certaine vitesse moyenne. Donc elles partent comme ça. Et puis je me dis, qu'est-ce qui va se passer au temps long ? C'est-à-dire, et en particulier, qu'est-ce qui va se passer pour la forme de mon paquet d'ondes, et où est le centre de masse du paquet d'ondes ? Alors, si on raisonne en mécanique classique sur des modèles, c'est extrêmement simple de voir qu'on prend un modèle très simple, c'est une marche au hasard, avec une vitesse qui peut être plus ou moins V0, puisque j'ai je vais soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en désordre faible, donc l'effet du désordre sur la vitesse est tout petit, je peux le négliger. Et puis, à chaque événement de scattering, je vais supposer que la direction est randomisée, c'est-à-dire que j'ai 50-50 de probabilité d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, le modèle de marche au hasard le plus simple. Et je dis simplement que j'ai une probabilité d'être diffusé pendant un temps dt qui est proportionnel à dt sur taux, où taux est le temps caractéristique, le temps de diffusion de ce problème-là. Et ben, si j'écris ça, je peux écrire classiquement une équation de Boltzmann, donc sur les populations, n plus de t qui va vers la droite, n moins de t qui va vers la gauche. Et puis j'ai une équation de ce type-là, c'est-à-dire que la population qui va vers la droite augmente, diminue à cause des quand je suis diffusé de plus vers moins, et puis au contraire de moins vers plus, donc j'ai une équation de ce type-là. Donc l'intégration est tout à fait évidente, et vous pouvez calculer à ce moment-là la vitesse moyenne du paquet d'ondes, vous pouvez calculer la position moyenne, et ce que vous obtenez pour la position moyenne, bah, c'est ce résultat-là. Alors ce n'est pas extrêmement surprenant, ça veut dire que la distance moyenne, donc le centre de masse des particules en moyenne, en fonction du temps, bah, ça part à zéro, évidemment, sur l'origine. Et puis au début, ça part linéairement, c'est normal, c'est la particule part bellistiquement. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des diffusions, c'est-à-dire que ça renvoie dans l'autre sens, bah, la vitesse moyenne diminue jusqu'à ce que la position moyenne s'équilibre à un libre parcours moyen. Alors pourquoi un libre parcours moyen ? Bah, c'est très simple. Je suis là, je pars avec balistiquement, et dès que je suis diffusé avec mon modèle, j'ai 50% de chance d'aller vers l'avant ou vers l'arrière, donc évidemment, la position moyenne, à ce moment-là, cesse d'évoluer. Donc tout ce qui compte, c'est le problème balistique, et le problème balistique, c'est simplement la probabilité de ne pas avoir été diffusé pendant un temps T, c'est exponentielle moins T sur taux, et du coup, en gros, le paquet d'ondes, qu'est-ce qu'il fait ? Il part, il va se déplacer de un libre parcours moyen, et puis il va s'arrêter. Mais il s'arrête à une position finie, égale à un libre parcours moyen. Ça, c'est complètement classique, rien de sorcier, hein. C'est vraiment de la physique très de base. Alors évidemment, cet argument peut être étendu en n'importe quel nombre de dimensions pour différents types de désordres. Là, j'ai pris 50-50, mais je peux changer les probabilités, ça ne change rien, c'est toujours une dépendance de ce type-là qui apparaît. Et maintenant, je fais la même chose en mécanique quantique. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends l'équation de Schrödinger, toute bête, avec un désordre, un désordre faible, et puis je l'intègre numériquement, et je regarde ce qui se passe pour le centre de masse du paquet d'ondes quantique moyenné sur plein de réalisations du désordre. Et voilà ce que j'obtiens. Alors j'ai mis en bleu le résultat classique, c'est le résultat qu'on vient de voir, le 1 moins exponentiel, et puis en noir, c'est le résultat de simulation numérique. Alors vous voyez, c'est radicalement différent, c'est-à-dire au tout début, c'est pareil. Au tout début, c'est linéaire en temps. Donc là, c'est le paquet d'ondes qui part balistiquement. Donc, il n'y a rien de mystérieux. C'est un principe de correspondance entre mécanique classique et mécanique quantique. Et puis, au bout d'un moment, là, à quelques taux, en gros, au bout de 3 taux, le paquet d'ondes fait demi-tour et revient à sa position d'équilibre. Donc, on envoie les particules dans cette direction-là et on reprend le paquet d'ondes dans la figure qui revient en moyenne, évidemment, au point initial. D'où le nom de boomerang quantique. Alors, il se trouve qu'on peut voir, là, on aura l'occasion de voir tout à l'heure le comportement asymptotique, c'est en log de t sur t carré au temps long. Donc ça revient au point d'origine, mais ça met quand même pas mal de temps à revenir. Vous voyez que là, au bout de 50 taux, on n'est pas vraiment revenu, on est toujours à de l'ordre de quelques pourcents, 5% ou 10% du libre parcours moyen. On peut aussi regarder ce qui se passe. Pardon. Donc c'est totalement. Alors c'est un effet quantique, alors quantique au sens interférentiel, et on va voir que c'est quelque chose qui donc, est une signature d'une évolution cohérente. Parce qu'évidemment, si je ne mets pas de cohérence dans la fonction d'onde quantique, je retrouve un résultat classique en désordre faible, donc il ne se passe rien de spécial. Après, je peux regarder, là j'ai regardé le centre de masse, mais pour essayer un petit peu mieux de comprendre ce qui se passe, on peut regarder à la dynamique du paquet d'ondes lui-même, c'est-à-dire regarder comment le paquet d'ondes évolue dans l'espace, et en fonction du temps. Donc c'est ce que je vous montre sur le transparent d'après. Et il y a un paquet d'ondes qui part en zéro, ici, et puis, en fonction du temps, il part vers la droite, là, il s'atténue, parce qu'évidemment, c'est ça la composante balistique, et voilà le paquet d'ondes, maintenant. Et vous voyez qu'il est centré quasiment autour du point de départ. Si on regarde au temps un tout petit peu plus long, ce qui se passe, donc là, là, j'étais jusqu'à 10 taux, là, je vais aller jusqu'à 80 taux, et je montre en bleu là, le profil théorique que j'avais montré tout à l'heure pour les particules localisées, qui s'appelle un profil dit de Gogolin, parce que c'est Gogolin qui l'a donné la première fois, et on voit que même s'il y a des temps intermédiaires, il y a encore des toutes petites dissymétries dans ce paquet, quand on attend suffisamment longtemps, ça devient complètement symétrique, et on va vers le profil donné analytique. Là, on va jusqu'à 80 taux, et donc avec une décroissance à peu près exponentielle, là-dedans. Donc ça veut dire que le fait qu'on ait donné une vitesse vers la droite au départ, en fait, on s'en fiche au temps long. Si on était parti vers la gauche, on aurait exactement le même profil au temps infini. Comment on peut essayer de comprendre ça? Alors, il y a une théorie diagrammatique qui permet de faire ça. Elle est fondée sur des fonctions de Green, dont on vient de voir ce que c'est il n'y a pas longtemps. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que c'est quand même assez technique. Il n'y a rien de très compliqué, simplement il faut être assez méticuleux, parce que c'est des calculs un petit peu complexes, mais on peut tout calculer dans ce système-là. Alors pourquoi ? Bon, l'objet de base, l'a dit, c'est la fonction de Green. Alors les fonctions de Green, comme a dit Bernard, il y a un problème quand l'énergie est juste sur l'axe réel, donc on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle une fonction retardée et une avancée, où on met une petite partie imaginaire. Alors, I0, là, ça veut dire simplement plus I0, ça veut dire qu'on met un plus I état avec état petit, et à la fin, on fait tendre état vers 0. Et puis là, il a le signe contraire. Alors ça donne des fonctions de Green qu'on appelle retardées et avancées. Et leur propriété, c'est que si on fait, bon, c'est des transformées de Fourier, donc là, on est dans l'espace des énergies, on peut passer dans l'espace temporel par transformée de Fourier, et alors la fonction de Green de x prime xt appliqué sur psi de x et de t, ça donne en fait l'évolution de la fonction en fonction de x prime à l'instant t. Donc la fonction de Green du temps, ça donne essentiellement l'évolution en fonction du temps d'un paquet d'ondes, enfin d'une fonction d'onde initiale psi. Et puis la même chose pour psi star, donc la complexe conjuguée, mais là il faut mettre une fonction de Green avancée, donc il faut faire attention aux signes de toutes les parties imaginaires, mais il n'y a rien de. Et alors, vous voyez que si vous voulez regarder l'évolution, par exemple, de modules de psi carré, la densité, vous pouvez voir, c'est simplement le produit de ces deux objets-là. Et donc, ça va faire intervenir deux fonctions de Green, une fonction de Green avancée, une fonction de Green retardée, correctement mélangées. Alors, si on regarde l'impulsion moyenne, alors je ne regarde pas la position moyenne pour l'instant, pour une raison qui apparaîtrait tout à l'heure, je regarde l'impulsion moyenne, c'est donné par quelque chose comme ça. La barre, ici, veut dire une moyenne sur différentes réalisations du désordre de l'impulsion. Et l'impulsion, vous savez que dans la représentation spatiale, c'est h bar sur i. Alors, je n'ai pas pris de h bar, j'ai mis tout h bar égale 1. Et donc, c'est un gradient, essentiellement, qu'on voit apparaître ici. Et puis, ce qu'on voit apparaître, c'est des fonctions, là, psi A et psi B, donc au point A des points, des puissances I moins P, XA et XB, ça correspond à la transformée de Fourier qui permet de passer de P à X. Et donc, ça, c'est une manipulation algébrique élémentaire qui permet d'avoir la valeur moyenne de l'impulsion. Et là, attention, il y a une moyenne sur différentes configurations de désordre. Alors, comme là, il y a des psi XA et des psi étoiles XB, ben, on peut simplement exprimer tout en fonction de fonction de Green. Et on obtient une équation de ce style-là. Alors, c'est moche, mais vous voyez que vous avez l'état initial du système, donc le paquet d'ondes initiales, à t égale 0, sa dépendance dans les positions. Après, on l'a intégré sur toutes les positions. Et puis, on a un espèce d'objet là qui est le produit de deux fonctions de Green retardées et avancées, une valeur moyenne, des gradients, enfin, des opérations algébriques tout à fait simples, enfin, relativement simples. Comme ici, on a quelque chose qui dépend en temps, en fait, c'est plus pratique de travailler en énergie. Donc, on fait simplement une transformée de Fourier. On définit P de oméga, qui est simplement la transformée de Fourier de P de T. On va travailler sur cet objet. Alors, pourquoi on travaille sur P, pas sur X ? Ben, simplement qu'on a en fait le théorème d'Ehrenfest qui nous dit que la position moyenne du paquet d'ondes, la dérivée par rapport au temps, c'est simplement l'impulsion moyenne, bon, à la masse près, et ce qui, en termes de Fourier, dit simplement que X de oméga et P de oméga, c'est la même chose à ce facteur oméga près. Donc, on va essayer simplement de regarder comment on peut calculer cet objet. Le point clé, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le produit de deux fonctions de Green ici. Donc voilà, réécrit la forme finale qu'on va manipuler. C'est plein d'intégrales et tout. Un noyau ici qui est au dérivé ici, enfin au gradient près. Le produit de deux fonctions de Green à des positions initiales différentes, x' plus r sur 2, x' moins r sur 2, à des positions finales différentes, et puis après, à des énergies aussi différentes. Ça permet d'avoir une dynamique, c'est-à-dire que le psi va se propager avec une énergie E, le psi star avec une énergie E moins oméga, et tout se fait donc une dynamique à la fréquence oméga. Et c'est cet objet qu'on va essayer de calculer. Donc ce n'est pas une fonction de Green, c'est un produit de deux fonctions de Green. Donc après, quand on veut calculer une fonction de Green de manière perturbative par rapport à un système. Donc, si on a un système où l'hamiltonien, c'est simplement la somme d'un hamiltonien H0 connu, qui sera ici, l'hamiltonien sans désordre, et puis donc juste l'énergie cinétique, et puis ici, le potentiel, on peut faire une expansion en série de la fonction de Green qui donne ça. Et donc, c'est juste une alternance de fonction de Green, potentiel, fonction de Green, potentiel, fonction de Green, potentiel, à l'infini, comme ça. Donc, ça, c'est une égalité exacte. Évidemment, on a la même chose pour la fonction de Green retardée ou avancée. Et souvent, on utilise une représentation graphique. Donc ici, un trait plein, ça va désigner un G0. Et puis un rond, un point rond, ça va désigner un V, ici une interaction. Et puis, donc ça, c'est la traduction graphique de cette équation, c'est celle-là. Et puis la même chose pour la fonction de Green avancée, donc qui va faire propager psi étoile. Alors souvent, on utilise des traits pleins pour les fonctions de Green retardées et puis des pointillés pour les fonctions de Green avancées. Ça permet de... Et puis là, j'ai mis aussi deux couleurs différentes pour qu'on s'y reconnaisse mieux. Et vous voyez que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est moyenner le produit de deux choses comme ça. Donc évidemment, comme vous faites une expansion là-dedans, vous voyez que vous allez devoir, pour faire cette moyenne-là, combiner un truc de ce style-là avec un autre truc de ce style-là, et puis moyenner sur tout le désordre intermédiaire, c'est-à-dire sur tous ces objets-là, tous ces petits ronds qui désignent les potentiels. Mais en principe, vous devez prendre graphiquement n'importe quel, pas de diffusion multiple pour psi, n'importe lequel pour psi star, prendre toutes les combinaisons possibles et puis sommer sur tout. Alors évidemment, en pratique, c'est infaisable. Donc on fait un petit peu différemment. On peut quand même calculer la fonction de Green moyenne, ça c'est relativement facile dans un désordre faible, et en particulier, on voit que la fonction de Green moyenne, c'est essentiellement la fonction de Green sans désordre, avec juste une exponentielle décroissante sur une longueur caractéristique qui est le libre parcours moyen. Il faut se souvenir que, en gros, les propriétés du système, c'est ça va rester plus ou moins local sur un libre parcours moyen. Alors si on prend toutes les combinaisons possibles là-dedans, ça va être très compliqué. Mais on va, pour maintenant, tout ce que j'ai dit était complètement indépendant de la dimension du système. C'est tout à fait général. Maintenant, on passe à la technique de Berezinski spécifique, qui est unidimensionnelle. Et elle part d'une idée assez simple, c'est de prendre la fonction de Green, qui dépend donc de deux distances, xi et xj, et elle a cette forme-là, ce qui, pour le cas où xi est plus grand que xj, donc on enlève la valeur absolue là, et on voit qu'elle peut simplement s'écrire comme le produit de deux objets. Alors, c'est assez trivial, comme ça. Un objet qui dépend que de xi, et un objet qui dépend que de xj. Et c'est ça l'idée centrale de la diagrammatique de Berezinski, c'est-à-dire de dire, plutôt qu'avoir des fonctions de Green qui sont compliquées parce qu'elles dépendent des deux positions, en fait, on va couper la fonction de Green en deux, on va mettre un côté sur un vertex i et l'autre côté sur le vertex j. Et on ne va plus raisonner que sur les vertex et plus du tout sur les lignes qui les connectent. Alors ça, on peut le faire. 1D. Alors ça marche à 1D parce que la fonction de Green elle a la bonne propriété de pouvoir se splitter en deux. Dès qu'on n'est plus en dimension 1, c'est plus vrai. Et donc l'idée, c'est simplement on prend toutes les positions intermédiaires dans le système et on les ordonne de moins l'infini à plus l'infini. Alors x', ce sera le point de départ, x, le point d'arrivée, puisque c'est ça qu'on a dans la formule. Et on va sommer, en fait, on est amené à sommer sur tous les états, toutes les positions intermédiaires, avec à chaque fois des fonctions de Green avancées, des fonctions de Green retardées ou des potentiels. Alors on fait quand même une hypothèse, petit désordre faible, ça veut dire que les distances typiques entre deux points consécutifs, c'est l'ordre du parcours moyen. Et on suppose que ça, c'est très grand devant la longueur d'onde de De Broglie. C'est-à-dire que la particule oscille beaucoup entre deux éléments de diffusion. C'est simplement quelque chose qui veut dire qu'on a un faible désordre. Et à ce moment-là, donc on va avoir là-dedans des termes oscillants, vous voyez là-dedans, dans ces trucs-là, et on va dire que ces termes-là, ils oscillent rapidement, et on va virer tous ceux qui, quand on va sommer, vont donner des termes très oscillants. Et donc tout le truc, ça va consister à chercher les contributions qui oscillent pas beaucoup, ou peu, et donc c'est un principe de phase stationnaire, en fait, de sommer tout ça. On va prendre un désordre simple, c'est juste pour commodité, donc une distribution gaussienne et une fonction de corrélation à deux points qui est un delta corrélé. Ça permet de faire des calculs plus simplement. En fait, on verra que ce n'est pas du tout essentiel comme restriction. Alors ça veut dire aussi que quand je vais faire toutes mes moyennes, quand j'ai des V entre eux, dès qu'ils ne vont pas être à la même position, ça va faire zéro. Et donc, ça va me sélectionner dans tous les éléments V. Il va falloir que je les apparie chacun à la même position. Et comme c'est gaussien, j'ai le théorème de Wick, et donc, en fait, je peux oublier toutes les fonctions de corrélation d'ordre supérieur, et j'ai plus que des paires à apparaître. Donc, voilà la tête que va avoir une représentation diagrammatique d'un chemin de diffusion multiple typique. Donc, je pars du point x', ici. Alors, en haut, en noir, là, c'est les fonctions de Green avancées, donc c'est l'avancée de psi. Et en bas, c'est psi étoile. Alors, l'axe ici n'a pas de signification physique, c'est simplement pour séparer les contributions de façon à ce qu'on les voit quand ça fait demi-tour, par exemple, que ça ne se superpose pas. Mais il ne faut pas donner de signification à ça, c'est simplement visuellement pour bien les reconnaître. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais là de x' à x2. Là, en x2, je suis diffusé par le potentiel V, je repars ici en x1, puis je repars en x2, puis pouf, etc. La même chose pour celui en dessous. Et donc, le fait qu'il y ait des deltas de x', quand j'ai les V, les appariements, je les représente par les lignes ondulées vertes, ici. Et donc, il faut apparier tous les V entre eux, sinon ça fait zéro, la contribution. Donc, il faut garder simplement toutes ces contributions-là. Alors, un point qui est extrêmement important, maintenant, c'est que j'ai fixé le point de départ et le point d'arrivée, et puis maintenant, il faut que je somme sur toutes les positions intermédiaires. Et quand je regarde comment une quantité comme ça varie, il va falloir regarder, par exemple, comment celle-là, quand je vais bouger un petit peu x2, qu'est-ce que ça va changer sur les phases accumulées? Évidemment, ici, si je prends ça, je vais de là à là, puis de là à là, la phase qu'on accumule, c'est k devant la différence des x. Donc quand je suis juste là-dessus, quand je bouge x2, je prends une phase sur la partie de x1 à x2, mais en fait, elle est compensée par la partie qui va de x2 à x4. Donc ça, un truc où on passe comme ça, ça ne fait pas de déphasage. C'est indépendant de x2. Donc là, la phase est stationnaire vis-à-vis de x2. Par contre, j'ai ce bout-là. Et alors là, ce bout-là, c'est embêtant parce que ça, c'est puissance ik x2, et quand je bouge, je prends un puissance ik x2, et quand je bouge l'autre, je prends de nouveau un puissance ik x2. Donc ça prend un facteur de phase deux fois ik x2. Donc ça, c'est pas bon. ou K, bon, c'est le vecteur d'onde à cette énergie-là. Donc ça, ça bouge quand je fais bouger X2. Donc ça, ça va se moyenner à zéro. Donc ça, ce n'est pas un bon diagramme. Et puis on voit aussi que, en fait, là aussi, il n'est pas bon, puisque si je regarde sur X3, j'ai le même phénomène, j'ai un retour ici, et puis là, là, je traverse. Donc là, pareil, je me prends un facteur de phase, qui cette fois-ci est simplement exponentiel moins de i. Alors il y a un moins parce que c'est retardé au lieu d'être avancé, et puis ce n'est pas exactement le même cas parce que c'est une énergie légèrement différente par oméga. Mais donc tout ça, c'est mauvais. Par contre, ça, par exemple, c'est bon, parce que là, je prends le facteur de phase que je vais de là à là, il se compense entre la partie ici, et pareil en bas. Donc ça, c'est un bon vertex. Mais cela, c'est des mauvais vertex. Donc ça, c'est un diagramme qui va donner 0 à la fin, dans l'hypothèse de faible désordre. Et donc maintenant, il faut essayer de trouver tous les diagrammes qui vont contribuer. Et bien, il faut simplement annuler tous les facteurs de phase possibles. Et donc ça, ça veut dire que dans tous les vertex qui sont représentés ici, il n'y en a que quelques-uns qui annulent ce facteur de phase. Et il y en a 6 en tout qui sont représentés ici. Bon, il est facile de se convaincre que cela, par exemple, là, quand j'ai un vertex comme ça, ben, je prends un moins 2ik ici, et puis je prends un plus 2ik ici, donc ça se compense. Donc là, j'ai mis les A, B et C sont pour la partie fonction de Green retardée, mais évidemment, il y a les correspondants à A', simplement mettant des pointillés correspondant aux fonctions de Green avancées, et puis voilà. Et il n'y a que cela. Et à chacun, je peux calculer leur poids. Donc après, bah, le jeu, c'est simplement de sommer toutes les contributions possibles. Et il faut faire un petit peu attention au point de départ et au point d'arrivée. Il y a quelque chose d'un petit peu spécifique, parce que là, les vertex sont un tout petit peu différents, mais c'est dans le même genre d'esprit qu'on fait ça. Donc voilà le chemin que j'avais représenté tout à l'heure, donc qui n'est pas bon à cause de ça. Donc ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Comment faire pour avoir un bon truc, bah, il faut simplement changer ces vertex problématiques ici pour mettre des bons vertex qui rentrent dans une des 6 catégories. Donc voilà. Alors comment le faire, bah, il suffit de compter en fait le nombre de lignes qu'il y a, par exemple, entre x1 et x'. En haut, il y a 2 lignes, en bas, il y a 2 lignes. Donc ça va. Là, par exemple, entre x' et x2, vous voyez qu'il y a 3 lignes noires et 3 lignes rouges. Donc ça va. Par contre, entre X2 et X3, il y a une seule ligne noire et il y a 3 lignes. Et donc le critère, c'est simplement qu'il faut qu'il y ait le même nombre de lignes partout. S'il n'y a pas le même nombre de lignes en haut et en bas, c'est mort, la contribution est nulle. Donc on peut faire... Ah oui, pardon. Et maintenant, sur le diagramme corrigé, où là, il n'y a que des vertex admissibles, bah là, c'est 2, 2, 3, 3. Donc à chaque fois, il y a le même nombre de lignes en haut et en bas. Et donc ça, c'est un bon diagramme qui va contribuer. Alors après, pour calculer, donc là je vais un peu vite sur les détails techniques, je vous ai expliqué un petit peu le principe de la méthode. On coupe les diagrammes en 3 parties par rapport au point de départ et le point d'arrivée ici, la partie droite, la partie gauche, la partie centrale. Et il est facile de se convaincre, d'après les arguments donnés précédemment, que dans la partie droite et partie gauche, il doit y avoir un nombre pair de lignes. Donc là, c'est une deuxième ligne en haut, et, enfin, pour chacun. Donc ici, ce serait un cas qu'on va appeler m égale 1. Pareil à gauche, et puis au milieu, comme il y a le point de départ et le point d'arrivée, il y a un nombre impair de lignes de type 2m plus 1. Et puis, il faut sommer tout ça, mais comme, je vous rappelle, c'est des produits de fonction de Green maintenant, et que tout ça se factorise simplement par rapport au point de... En fait, on peut factoriser indépendamment, étudier indépendamment la partie droite, la partie gauche, la partie centre, après il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Alors on sépare dans chaque région selon le nombre de lignes qu'on a, par exemple dans la ligne droite, là, dans la partie droite. Donc là, pour l'instant, ça, c'est une contribution qui va être de type m égale 1. Et maintenant, le seul truc à faire, c'est de regarder ce qui se passe quand je bouge x. Alors quand je bouge x, bah, éventuellement, je vais rajouter des vertex dans le système, et donc je vais changer le m. Mais on peut regarder la contribution donc complètement de la partie entièrement droite ici. Voilà, je peux l'écrire ici. Donc je l'ai écrit pour la partie rm de x. Alors là, j'ai pris pour m égale 3. Où j'ai 1, 2, 3 lignes ici, 3 lignes ici. Et puis maintenant, je bouge, je vais bouger x un petit peu vers la gauche, moins delta x, et je regarde ce qui peut se passer. Alors, quand je bouge entre x et moins delta x, ben, je peux rajouter des lignes. Alors, je peux rajouter des trucs comme ça, ou des machins comme ça, avec un vertex là. Donc, il y a toute une possibilité, suivant les vertex autorisés que j'ai dit tout à l'heure, les 6 classes de vertex autorisés. Les premiers ne changent pas le nombre de lignes. Par contre, ceux-là, par exemple, vous voyez que le diagramme E ici, il n'a plus que 2 lignes ici, Et le diagramme F, il en a 4. Mais on peut changer avec ces vertex juste une paire de lignes. Ce qui fait qu'en fait, on écrit le RM de X moins delta X comme le RM de X, et puis des contributions qui viennent de tous les vertex. Celles qui ne changent pas, les quatre premières qui ne changent pas le nombre de lignes, et puis celles qui changent le nombre de lignes. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Après, donc les poids là ont été mis comme il faut. Il y a des dépendances de la force du désordre ici, en oméga ici. Il y a des choses un peu techniques là-dedans. Mais ça se résume donc à une équation différentielle pour la partie droite, la contribution de la partie droite. Et cette équation différentielle, on peut très facilement, on voit qu'il n'y a que des puissances oméga x qui interviennent dedans. Donc on fait cette toute petite transformation et on obtient une équation purement algébrique. Et en fait, cette équation de récurrence algébrique, on sait la résoudre. La solution s'exprime en termes de fonctions hypergéométriques confluentes. Alors c'est lourd, on fait plein d'erreurs parce qu'on se trompe dans les facteurs, mais à la fin, c'est analytique. On fait la même chose à gauche. Et au centre, alors c'est un tout petit peu compliqué parce que pour la partie centrale, on a un nombre de lignes à gauche et un nombre de lignes à droite, donc ça commence à dépendre de deux indices. C'est la même chose, mais beaucoup plus compliqué. Le truc, c'est qu'on arrive à une équation, pareil, à une équation de type récurrence qui est écrite ici, mais cette fois-ci, on ne sait pas la résoudre analytiquement. Donc il n'y a pas d'expression. Mais c'est très facile parce que c'est des relations de récurrence, donc en fait, ça se construit à partir des solutions à petit m, on construit très facilement les choses pour les grandes valeurs de m. En fait, on construit une espèce de pyramide triangulaire qui permet de calculer tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de solution analytique connue pour ça. Par contre, il y a des solutions qu'on peut faire. Vous voyez que la fréquence oméga, elle intervient ici. Et on sait faire des solutions à petit oméga et à grand oméga. Alors, à grand oméga, on peut faire tout simplement des expansions puissance de 1 sur oméga. Ça, c'est facile à faire, vraiment facile. Et 1 sur oméga, ça va être le temps qu'on va passer en Fourier. Donc, en fait, ça, c'est des expansions en puissance du temps. Et on sait aussi faire des solutions asymptotiques quand oméga est petit. Ça aussi, ça se fait. C'est pas très compliqué. Mais on n'a pas de solution en général pour n'importe quel oméga. Donc à la fin, quand on remet tout ensemble, on a une prédiction de Berezinski qui est la valeur moyenne donc, de x de t, c'est le truc qui nous intéresse pour l'effet de boomerang, qui s'écrit sous forme de cette somme-là. M, c'est simplement le nombre de lignes qui intervient dans le problème. P1M, on a vu que c'était c'est une quantité qui est liée, donc là, c'est encore des hypergéométriques, et ça, c'est le truc dont on ne sait pas résoudre analytiquement. Mais on sait faire, par exemple, une expansion de Taylor au temps court. Voilà le résultat. Alors, c'est très facile. En Mathematica, vous générez sans ordre, sans aucune difficulté, en puissance de T. Là, j'ai représenté donc, les six premiers termes. Et vous voyez donc des termes. Alors le premier terme, c'est L fois T sur tau. Alors L sur tau, c'est la vitesse. Donc ça, c'est simplement la propagation balistique. Au temps court, je propage balistiquement mon centre de 1. C'est comme s'il n'y avait pas de scattering. Ça, c'est quoi? C'est une partie où je repars un peu en arrière, puisque le truc est négatif. Et en fait, c'est simplement quelque chose qui correspond à un événement de scattering. Ça correspond à deux événements de scattering, 3, 4, 5, etc. Et vous voyez que les trois premiers termes ici, c'est simplement le développement d'exponentielle, donc du terme classique. Donc ça veut dire que jusqu'à l'ordre 3 inclus, en fait, il n'y a pas d'effet d'interférence important. Ça n'apparaît que en T4 ici, où on a la première contribution que j'appelle quantique, donc qui est interférentielle, qui n'est pas classique, qui correspond à des diagrammes de ce style-là. Alors, et puis après, plus on va à des ordres élevés, évidemment, plus il y a de diagrammes non classique qui contribue de manière importante. Alors, on peut aussi, je vous ai dit, avoir des comportements asymptotiques à oméga petit, c'est-à-dire au temps long. Et là, voilà, la prédiction elle est donnée ici. Donc, c'est un truc qui est en log de t sur t2, la valeur moyenne du. Donc, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et puis, il y a un grand taux de 1 sur t2. On pourrait continuer les expansions, mais ça, c'est le terme important. Alors, on ne sait pas ressommer exactement cette série-là. Malheureusement, donc on n'a pas d'expression complètement analytique, mais on peut faire ce qu'on appelle un approximant de Padé là-dessus, au temps intermédiaire, c'est-à-dire partir du fait qu'on connaît, on force quelque part le comportement au temps long, en log de t qu'on connaît, et puis on met ici, on s'arrange pour que le développement de Taylor de ce machin-là, au temps court, soit exactement les termes qu'on connaît, en faisant le rapport de deux polynômes ici. Bon, c'est une technique tout à fait standard. Et ça marche extrêmement bien. En fait, il suffit de quelques termes, l'ordre de 7 termes, et à ce moment-là, on a on a quelque chose qui est indistinguable, qui converge très très vite. Donc ça peut servir, ce n'est pas analytique complètement, mais c'est presque analytique. Et si on compare, par exemple, alors au numérique, voilà ce qu'on obtient. Ici, en bleu, c'est le calcul numérique pour donc un problème, peu importe lequel, de l'effet boomerang. Et la prédiction Berezinski, c'est le truc en rouge. Vous voyez, l'accord est absolument parfait. Et le comportement au temps long est en log de t sur t carré, donc ça marche aussi très bien. Alors, un point qui est important, c'est que c'est robuste, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est de faible désordre. Faible désordre, ça veut dire que le produit KL est grand. Ici, K, c'est 1, et L, c'est d'ordre de 5. Donc, le produit KL, c'est 5, donc c'est pas très, très grand devant 1. N'empêche, ça marche nickel. Donc, ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est très robuste vis-à-vis, en fait, l'hypothèse de désordre faible n'est pas si cruciale que ça. Après, on peut relaxer certaines des hypothèses que j'avais donné. Je vous avais dit qu'au début, on partait d'un paquet d'ondes qui était bien localisé, parce que dans le diagramme, ici, on mettait un point de départ et un point d'arrivée. En fait, si on prend un paquet d'ondes, donc là, j'ai remis l'expression, si on prend un paquet d'ondes qui n'est pas petit au départ, qui est donné ici, ça veut dire que le point de départ de psi et de psi étoile n'est pas nécessairement le même. Ils peuvent être décalés de quelque chose comme la largeur du paquet d'ondes. Donc, au lieu d'un diagramme comme ça, ce qu'il va falloir considérer, c'est un diagramme qui est presque le même, sauf qu'on a changé le point de départ. Quand on en a mis un à x' plus r sur 2 et l'autre à x' moins r sur 2. C'est techniquement, il faut rentrer dans le détail, mais en gros, le point qui est extrêmement important, c'est que ça ne change rien. C'est-à-dire le résultat est strictement le même. Et ça, c'est assez surprenant. Ça veut dire que vous prenez un paquet d'ondes petit, qui est comme ça, vous l'envoyez, donc étroit, petit, plus petit que le libre parcours moyen, il va se déplacer en gros d'un libre parcours moyen, et il va être carrément différent du paquet d'ondes de départ, et puis il va revenir à la position initiale. Il s'élargit parce qu'il y a la longueur de localisation dedans, mais il a fait quelque chose comme ça. Et puis, vous prenez l'autre cas limite, c'est un paquet d'ondes très large, comme ça, et il va vous bouger juste d'un tout petit peu, il va faire un petit... il va revenir, et là, c'est exactement la même chose pour le centre de masse. Aucune différence. Donc, ça veut dire que les conditions de validité de ça, c'est K sigma, grande devant 1, sigma, c'est la taille du paquet d'ondes. Alors ça veut dire que le paquet d'ondes est monochromatique, ou à peu près monochromatique. KL, grande devant 1, c'est des ordres faibles. Par contre, pas de condition entre sigma et L, ça marche très bien. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de condition là-dessus. Après, j'avais fait des hypothèses sur le désordre. Alors, j'avais dit que j'avais pris un désordre gaussien de façon à pouvoir utiliser le théorème de Wick facilement. En fait, comme on a un désordre faible, comme on l'a vu dans les cours et les séminaires, tout ce qui est fonction de corrélation d'ordre plus élevé, c'est des corrections, des petites corrections. Tout ce qui compte, c'est le point de la corrélation à deux points. Et donc, le fait que ce soit gaussien ou non gaussien, on s'en fiche. Après, j'ai pris quand même des fonctions de corrélation qui étaient delta corrélées, mais ce n'est pas forcément le cas. En particulier, ce n'est pas le cas dans les expériences. Par exemple, l'expérience que je vous ai montrée au début avec des atomes froids, ce n'est pas vrai. Et on a une fonction de corrélation du désordre qui dépend d'une, qui a une grandeur caractéristique zeta. Donc ça veut dire que si je reprends un diagramme, ce n'est pas un delta, donc ça veut dire que le point où j'ai un V ici et le point où j'ai un V ici ne sont pas exactement forcément au même point. Ils vont avoir une distance qui est de l'ordre de zeta. Donc ça complique un petit peu l'analyse des diagrammes. Si K de zeta est très petit devant 1, ça veut dire que la phase accumulée entre les deux points x1, x2 ici est petite. Donc c'est tout pareil. Si K de zeta est de l'ordre de 1, alors là, c'est plus compliqué, parce que ça veut dire que j'ai un désordre qui a une longueur de corrélation comparable à ma longueur d'onde de De Broglie. Et à ce moment-là, le désordre, le scattering vers l'avant et vers l'arrière ne sont plus du tout pareils. En général, pour une fonction typique, le scattering vers l'avant est beaucoup plus efficace que le scattering vers l'arrière, parce que simplement, si le potentiel est aussi très mollement, c'est vachement dur de renvoyer les particules vers l'arrière. Donc à ce moment-là, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement... Ça, on peut le montrer, ça a été montré par Nachmedov, au lieu de prendre le libre parcours moyen de scattering, on appelle ce qu'on appelle le libre parcours moyen de transport, c'est-à-dire c'est la distance typique que je vais parcourir, alors pas forcément en ayant un événement de diffusion, parce que je peux en avoir, mais ils sont essentiellement vers l'avant, jusqu'à ce que j'en ai un qui me fait repartir vers l'arrière. Donc il est typiquement plus grand que le libre parcours moyen de scattering, et pareil pour le temps caractéristique, le temps de scattering, et là le temps de transport. La condition quand même qu'il faut respecter, c'est que la longueur de corrélation du désordre doit être petite devant le libre parcours moyen. Parce que sinon, là, je sors complètement l'hypothèse, puisque je fais en gros une diffusion tous les libres parcours moyens, mais si le potentiel n'a pas beaucoup changé pendant ce temps-là, je rentre dans un problème un peu différent. En particulier, je casse un certain nombre de choses. Alors, les approximations-là, on peut les tester numériquement. Voilà, donc j'ai dit trois relaxations par rapport aux hypothèses de base. Une, le paquet d'ondes larges, donc la largeur du paquet, comme ça, 9 libres parcours moyens, donc il fait juste tout petit... Ça, pareil, le numérique et l'analytique sont exactement les mêmes. Je prends un désordre non gaussien, pareil, ça marche nickel, ou je prends un de l'ordre corrélé, où le libre parcours moyen de transport, c'est 1,5 fois le libre parcours moyen de scattering, pareil, ça marche nickel. Donc ça marche dans tous les cas. Alors pourquoi, maintenant, on peut se demander pourquoi ça revient à l'origine. Alors pour ça, on peut raisonner sur un petit peu l'équation de Schrödinger telle qu'on l'a écrite ce matin, en présence de désordre. Je prends un état initial quelconque, je peux le décomposer sur la base des états propres, et l'évolution dans la base des états propres, elle est triviale. Les coefficients aussi sont donnés par les overlaps 0, et puis c'est simplement les facteurs de bord qui oscillent en fonction du temps. Donc ça, c'est élémentaire. À partir de là, je peux calculer la valeur moyenne de l'opérateur position en fonction dans la base propre. Et donc, j'ai simplement des interférences entre les différents états propres qui oscillent à la différence I moins J, et puis des éléments de matrice de l'opérateur position entre état I et état J. Bon, là, pour l'instant, c'est strictement exact. Dans la limite des temps longs, toutes ces énergies ici sont suffisamment différentes pour brouiller ces facteurs de phase. Alors là, il y a une hypothèse cruciale qui intervient par rapport à ce qu'a dit Bernard ce matin, c'est que pour que ça, ce soit vrai, il faut que le spectre soit un spectre pure point, c'est-à-dire un spectre discret ponctuel. Si on a un spectre absolument continu, ce n'est pas vrai parce qu'il y a toujours des différences d'énergie arbitrairement petites dans le système, et donc il y a des termes qui ne vont pas se moyenner à zéro. Mais si je suis localisé, je vais avoir tous ces termes qui sont... Donc tous les termes non diagonaux vont se moyenner à zéro, et je vais retrouver cette expression. Alors là, cette expression, elle est intéressante parce qu'on voit qu'elle fait intervenir les valeurs moyennes de X sur des états propres du système. Alors là, c'est complètement, ça dépend du désordre. Et puis, des recouvrements ici. Mais c'est les modules carrés du recouvrement. Et là, vous voyez que si je prends sur Psi0 une onde et puissance IKX, ou je prends une onde et puissance moins IKX, donc qui va vers la gauche ou vers la droite, bah, le module carré de ce recouvrement, c'est le même. Donc ça veut dire que quand le système est time reversal invariant, donc les fonctions localisées sont réelles dans l'espace position, tout ça, c'est des choses réelles. Ce recouvrement-là, le module, c'est juste le complexe conjugué. Donc que j'aille vers la gauche ou vers la droite, la valeur finale de moyenne de X sera la même. Pour une réalisation de désordre, cette valeur n'est pas nulle. C'est-à-dire mon paquet, il part, il s'arrête quelque part, en moyenne. Ce n'est que quand je fais une moyenne sur les configurations de désordre qu'à ce moment-là, bah, évidemment, il y a une symétrie gauche-droite qui est rétablie quand je fais une moyenne de désordre, et la valeur moyenne qui ne change pas quand on passe de gauche à droite, ben c'est forcément 0. Donc j'ai forcément x égale 0. Donc ça, c'est un argument qui permet de comprendre pourquoi le paquet d'ondes doit retourner à l'origine si on a localisation. Si on n'a pas localisation, ce n'est pas vrai. Alors, pardon, le temps caractéristique pour ça, c'est ce qu'on appelle le temps de Heisenberg. Le temps de Heisenberg, c'est le temps pour lequel c'est l'inverse, en fait, c'est h-bar sur l'écart d'énergie minimum dans le système, pour un système de la taille de la longueur de localisation. Au-delà de ce temps-là, tous les termes, donc les termes non diagonaux, sont moyennés à zéro. Donc c'est le temps que ça prend, et ce temps-là, c'est exactement le temps de localisation dans le système. Et ça, c'est un effet cohérent. Et, a priori, on ne l'attend pas pour un système non localisé. Parce que pour un système non localisé, ben, l'argument tombe, les arguments de réalité des fonctions d'onde et de plus petite énergie tombent, et donc on n'attend pas un effet de boomerang. Alors, on peut le voir ça en regardant des choses. Alors, des choses un tout petit peu plus compliquées, en 2D ou en 3D. Alors, en 2D, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est encore une simulation numérique. Ben, vous voyez, vous avez aussi un effet boomerang. Alors là, la décroissance semble être en 1 sur T, mais ce n'est pas très clair, hein. C'est un système qu'on n'a pas vraiment encore bien étudié. La différence entre 1D et 2D, c'est que entre le temps de localisation et le temps de scattering, ça peut être complètement différent. alors que pour un dé, il y a juste un facteur 2. Donc on a des échelles différentes. On a une échelle différente pour ce qui se passe au temps court ici et une autre échelle pour ce qui se passe au temps long. Bon, mais 2D, ce n'est pas forcément le cas le plus intéressant. Le cas le plus intéressant, c'est 3D, comme a dit Bernard ce matin. 3D, il y a une transition entre des états localisés et des états pas localisés. Alors là, je prends le modèle Anderson, donc le modèle sur réseau, le truc le plus standard. On lance un paquet d'ondes là-dedans et on regarde est-ce qu'il va avoir du boomerang ou pas. Alors, on sait que sur ce système, si le désordre est suffisamment faible, on a une dynamique non localisée, qui en l'occurrence est diffusive. Si le désordre est fort, comme on vient de le voir en cours, on a une localisation d'Anderson. Donc on s'attend, suivant qu'on a W, on va passer d'un régime localisé à un régime délocalisé. Et la transition est pour une valeur qui est de l'ordre de 16,5. Et si on regarde maintenant l'effet boomerang, voilà ce qu'on observe. Donc la moyenne de XOT. Au début, il y a des trucs, ça monte, c'est sur une échelle toute petite, et puis ça relaxe vers des valeurs finales. Quand W est suffisamment grand, ça semble relaxer vers 0, dans le régime localisé, c'est ce qu'on attend d'après l'argument précédent. Et puis, quand W n'est pas trop grand, ça semble relaxer vers une valeur constante. Alors, on peut le voir un peu mieux. on sait que le point critique, on a quelque chose avec des trucs sous-diffusifs. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais il y avait des exposants deux tiers. Donc, ce qu'on est amené, c'est en fait à rescaler le X de T et de regarder en puissance de T, en log-log. Et on voit qu'au point critique, on a une dépendance algébrique, c'est droit, en puissance moins un tiers. Alors que quand on est à W égale 10, on est dans le régime localisé. Et puis quand on est dans le régime délocalisé, on a un truc qui semble être en 1 sur T. Après, on peut faire ce qu'on appelle une analyse d'échelle de ce truc-là, de voir que toutes les courbes, donc on met la valeur critique, le comportement critique, c'est en T puissance un tiers, donc on multiplie par T puissance un tiers, à ce moment-là, toutes les courbes se croisent en fonction de. Le temps se croise à ce point-là, et ça permet de faire une analyse de taille finie tout à fait standard dans ces systèmes-là, et de déterminer le point critique avec une excellente précision, et l'exposant critique. Il y a un exposant critique associé dans ce système-là, et on l'observe avec... C'est-à-dire que le boomerang lui-même est en fait aussi bien une mesure, un témoin ou un smoking gun du fait qu'on a une dynamique localisée ou délocalisée. Alors, je vais apprendre brièvement dans les quelques minutes qui restent sur les interactions atomes. Ici, on avait un problème, jusqu'ici, un problème one body. Qu'est-ce qui se passe si on met des interactions? C'est ce qu'on peut faire là, en rajoutant au niveau many body un truc pour un paramètre G qui va décrire l'interaction. Dans les atomes, les gaz atomiques froids, c'est typiquement des interactions ponctuelles, de contact. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des potentiels 1, hein, on peut approximer ça par une fonction delta, ça marche. Très bien. Donc c'est pour ça que ici j'ai mis des trucs où il n'y a que des trucs au point R. Et si on fait ça, on peut faire deux choses. On peut faire une approximation de champ moyen, quelqu'un récupère une équation de Gross-Pitevsky sur laquelle on peut essayer peut-être de faire des choses analytiques. Et puis on peut faire une théorie many-body où là on va avoir de la localisation d'Anderson et de many-body. Donc on peut espérer aller dans le régime many-body localization et voir ce que peut faire un peu que devient, disons, l'effet boomerang quand ça va se mettre dans ce régime de many-body. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que c'est une question qui va venir. Alors, bon, Gross-Pitevsky, je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails de ça. On sait que cette équation, donc ça, c'est l'équation de champ moyen. Donc, ça revient à une équation à une seule fonction d'onde, simplement elle est non linéaire. On sait que le terme non linéaire détruit la localisation d'Anderson, qu'au temps long, on a des choses du genre sous-diffusion, bon, c'est un peu compliqué. Si on regarde le boomerang, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand G égale 0, c'est-à-dire sans interaction, on a l'effet boomerang habituel, et par contre, dès qu'on met de l'interaction, on a une destruction partielle de cet effet boomerang. C'est-à-dire qu'on tend au temps long vers une valeur qui est finie, non nulle. Qui semble en tout cas. Alors après, peut-être qu'au temps extrêmement long, il se passe d'autres choses, en tout cas sur des temps, disons, utilisables par les simulations numériques, ça semble aller vers des constantes. Vous voyez, ça c'est les barres d'erreur, donc elles sont toutes petites, il n'y a aucun problème sur le fait que c'est un résultat significatif. Donc autant long, autant court, ce qu'on a, c'est le comportement de type Berezinski, c'est-à-dire on monte et puis on redescend, et puis autant long, on a partielle destruction de l'effet boomerang. Alors comment on peut comprendre Ça, oui, pardon, d'autres choses. On peut changer aussi, et ça c'est important, la taille du paquet d'ondes. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand G égale 0, pas en interaction, le fait que la courbe qui donne le X en fonction du temps, c'est exactement la même indépendamment de la taille de mon paquet d'ondes. Ici, si je mets une taille de paquet d'ondes différente, donc là il y a taille 10, K, 20 et 40, pour une interaction non nulle, vous voyez que l'effet est différent. Et que plus le paquet d'ondes est compact, initialement, plus l'effet boomerang est détruit. Alors ça, c'est tout à fait naturel, puisqu'il y a une interaction non linéaire dans le système, donc plus la taille du paquet d'ondes est petite, plus l'énergie d'interaction est grande, et donc plus vite ça va détruire, plus j'ai tous les effets d'interférence. Alors, en fait, on peut interpréter ce terme dans l'équation de Gross-Pitayevski, donc un terme qui est proportionnel à l'interaction et puis à la densité atomique, comme un temps effectif, comme un désordre effectif, mais qui maintenant est dépendant du temps, dépendant des fluctuations de psi. Et un désordre qui fluctue en fonction du temps, évidemment, ça casse la cohérence de phase du système. Alors, à ce moment-là, on n'est plus sur un problème quenched, on a un truc beaucoup plus compliqué, et il faut regarder comment ça va détruire les effets d'interférence entre les chemins de diffusion multiples. Alors, le problème, c'est que ça dépend de la forme du paquet d'ondes. Par exemple, si vous êtes à l'avant ou à l'arrière du paquet d'ondes, là où psi est petit, ben, ce potentiel il est tout petit. Par contre, au milieu, il est grand. Donc ça veut dire que la dynamique devient affreusement compliquée. Et en fait, on essaye de faire ça, mais c'est l'échec. Enfin, si on essaye de mettre du non-linéaire comme ça au niveau Berezinski, on n'y arrive pas. Simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un break time qui est de l'ordre de grandeur de pi h bar sur cette énergie d'interaction typique. Et ça marche à peu près, si on regarde des simulations numériques. Voilà l'énergie d'interaction correspondant à différentes tailles de paquets d'ondes, et puis la valeur de x au temps infini, et vous voyez que c'est à peu près tout le monde une courbe universelle. Je dis bien à peu près, parce que là, on ne sait pas vraiment traiter ce genre de choses. Alors, pour traiter ça, on passe sur deux autres effets. Bon, le rétrodiffusion cohérente, je vais un petit peu passer là-dessus, parce que je n'ai pas vraiment le temps. C'est un effet aussi interférentiel typique des atomes froids sur lequel on sait mieux faire les choses parce qu'on se met dans des cas où les interactions sont faibles et on n'a pas des problèmes de paquets d'ondes, mais on a des systèmes qui sont strictement homogènes. Là, c'est beaucoup plus facile. On voit des choses comme, par exemple, un pic qui se décroît en fonction du temps ici, que vous voyez, qui est simplement un effet d'interférence comme l'effet boomerang, mais tué par les interactions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on a toute une théorie qui permet de décrire ça. Donc là, ça, c'est de la diagrammatique classique avec ce qu'on appelle des diffusions des couperons, c'est de la physique mésoscopique complètement ordinaire. On rajoute des interactions là-dedans. On a des diagrammes plus ou moins compliqués qu'on sait tous expliciter. Et simplement, on voit qu'on a un temps caractéristique qui apparaît, qui est donné par ça, qu'on sait estimer assez proprement dans ces cas-là. Le point important, c'est qu'on est capable d'écrire des équations cinétiques. Équations cinétiques qui vont décrire quand on a des interactions entre particules. Les interactions entre particules, elles sont élastiques, mais c'est des collisions entre particules, donc ça peut redistribuer les énergies entre les particules, alors que quand le problème est linéaire, la distribution d'énergie, elle est donnée au départ, et elle ne change jamais, parce que toutes les collisions sont élastiques. Et donc, si on a une distribution d'énergie qui est donnée par ça, avec une condition de normalisation, on sait écrire une équation cinétique. Alors, c'est compliqué, mais ça décrit l'équation d'évolution en fonction du temps de la distribution d'énergie avec des kernels qui représentent en fait des collisions. Vous avez deux particules, énergie epsilon 1 et epsilon 2, qui vont générer deux particules à énergie epsilon, et epsilon 1 plus epsilon 2 moins epsilon. On sait refaire tous ces diagrammes, sommer tout ça. Ça, c'est le noyau. Peu importe tous les détails, on sait écrire des équations cinétiques là-dedans qui marchent bien et qui décrivent correctement le système. En particulier, ils décrivent la relaxation vers l'état d'équilibre, puisque la solution stationnaire de cette équation, c'est ce qu'on appelle une distribution de Rayleigh-Jeans, donc un truc qui est caractérisé par une température et un potentiel chimique, et ça marche. Donc c'est l'équilibre thermodynamique pour l'équation de Gross-Pitayevski. On sait aussi faire les choses pour les effets d'interférence. Et donc, on est capable de comprendre, alors je ne vais pas décrire, mais capable de comprendre comment un effet typique d'interférence, qui est un contraste CBS, va décroître en fonction du temps, avec un temps caractéristique qui est lié au paramètre à la force du désordre. Donc, dans ce cas-là, ça marche très bien, on sait tout à fait le faire. Évidemment, ce qu'on aurait aimé faire, c'est faire ça pour le boomerang, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire à cause de ces problèmes d'inhomogénéité spatiale. Et dernier mot, qu'est-ce qui se passe si on fait du full many body maintenant, c'est-à-dire on prend ça, et puis on essaye de résoudre ce problème-là. Donc alors on peut faire par une discrétisation spatiale qui map ce problème-là sur un problème de Bosey-Bard modèle. Donc vous voyez, c'est simplement un saut entre sites voisins, et puis des termes diagonaux ici, un terme d'interaction, et puis un terme de potentiel des ordonnées. Bon, évidemment, on ne sait pas résoudre ça, sauf dans le cas G égale 0. Donc là, on revient au problème précédent. Là, on a l'effet boomerang. Il y a un autre cas intéressant à 1D, qui est le cas où G est infini. Parce que si G est infini, c'est ce qu'on appelle un gaz de Tonks-Girardot, en fait, ce problème bosonique peut se mapper exactement sur un système de fermions sans interaction. Et si c'est des fermions sans interaction, bah, chaque fermion il fait son effet boomerang, et donc le système a un effet boomerang complet pour G égale 0 et pour G égale plus infini. Ça marche. Après, on sait faire des simulations numériques quasi exactes en utilisant des techniques de type DMRG. Alors, c'est très coûteux en temps, c'est des millions d'heures de calcul, c'est des petits systèmes, c'est des petits nombres de particules et c'est des temps pas trop longs. Mais on a quand même quelques résultats qui montrent que l'effet dans l'effet many body, l'effet de boomerang est aussi détruit. Il est même un peu plus détruit que pour l'équation de Gross-Pitevsky. Ce n'est pas tellement étonnant. Donc en orange, c'est la solution de Gross-Pitevsky. En bleu, c'est la solution quasi exacte du système. Alors, c'est que 5 particules, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors, le fait que ce soit un peu plus détruit, ce n'est pas tellement étonnant, parce que l'équation de champ moyen, évidemment, ça jette plein de fluctuations. Donc, plus il y a de fluctuations quantiques, plus ça va tuer les interférences. Et bon, simplement, là, on ne sait pas vraiment expliquer tout ça. Ce qui serait intéressant, c'est de se mettre dans un régime de MBL pour voir si on a de l'effet boomerang quantique. Ça, c'est un travail en cours. Et donc, pour conclure et un peu résumer tout ça, bon, on a vu l'effet boomerang quantique. Donc, c'est le fait que, pas intuitif, vous lancez le paquet d'ondes et en fait, il vous revient à la figure. Il se remet au point initial. C'est un phénomène générique et robuste, parce qu'on peut changer un peu tout ce qu'on veut dans le système. 1D, ça reste complètement... c'est une signature de la localisation d'Anderson, comme on l'a vu par exemple en 3D, où ça permet de pointer exactement le point, le seuil de mobilité. En dessous ou au-dessus du seuil de mobilité, on a un comportement différent. Tout peut être calculé en 1D, en des ordres faibles. Pas d'observation expérimentale, ça c'est dommage, mais c'est des choses qui sont en train d'être... les expérimentateurs travaillent là-dessus. Et puis, surtout, c'est partiellement détruit par les interactions. Un point aussi qui est ouvert aujourd'hui, c'était, je vous dis, quand j'ai fait la dérivation en utilisant l'équation de Schrödinger et puis des arguments de symétrie pour montrer qu'il y avait un effet boomerang, que la particule revenait au point, j'ai utilisé l'invariance par renversement du temps. Et en fait, on a l'impression que finalement, ce n'est pas si nécessaire que ça. Enfin, là encore, c'est un travail en cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.